Bonjour à tous, ici Chloé Mahé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Le Journal du Pharmacien, c'est le podcast qui va te permettre d'en apprendre plus sur l'univers de la pharmacie et ses possibilités infinies à travers les interviews de pharmaciens et de pharmaciennes, mais pas que, tous plus inspirants les uns que les autres. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast car c'est ce qui permet de faire découvrir notre univers et de transmettre la fierté du métier. Attention, vous vous apprêtez à écouter un épisode passionnant. Aujourd'hui, vous allez plonger dans l'univers fascinant du microbiote intestinal avec Hicham Amarty, docteur en pharmacie spécialiste du microbiote intestinal. Pour ce nouvel épisode, Hicham nous fait découvrir les implications du microbiote intestinal dans de nombreux processus biologiques, mais aussi l'importance de prendre soin de celui-ci. Une grosse partie de cet épisode est dédiée au syndrome de l'intestin irritable, ou devrais-je dire les syndromes de l'intestin irritable, avec une prévalence de 10 à 15% dans les pays industrialisés et qui touche malheureusement de plus en plus de monde. Hicham nous propose notamment des pistes pour mieux vivre avec ces syndromes et déconstruit de nombreuses idées reçues à leur sujet. Je n'en dis pas plus et laisse place à notre échange. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Pharmacien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dr Hicham Amarty, qui est donc spécialisé dans le microbiote intestinal, docteur en pharmacie, et fondateur de Pharmabiote, dont il aura l'occasion de nous parler. Bonjour Hicham, comment allez-vous ?
Bonjour Chloé, je vais bien, merci, merci de votre invitation.
Je suis vraiment ravie de vous accueillir en ce dimanche midi.
Je n'osais pas dire dimanche, mais effectivement, on est bien dimanche, oui, tout à fait.
Et voilà, là, quand on est passionné, il n'y a pas de jour.
C'est ça, tout à fait.
Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et revenir sur votre parcours ?
Oui, je suis donc Hicham Amarty, docteur en pharmacie. J'ai exercé en tant que titulaire pendant une quinzaine d'années. Et j'ai aussi, dans une autre vie, été... directeur de magasin dans une chaîne de parfumerie renommée, pour ne pas la citer, ce qui m'a permis effectivement d'avoir une activité aussi bien commerciale que pharmaceutique. Et pendant les 15 années où j'étais titulaire, je me suis beaucoup penché sur la partie qui m'intéressait un peu plus, on va dire, c'est la phytothérapie, l'aroma, la micronutrition, et j'ai commencé à me spécialiser dans ces domaines-là, tout en me rendant compte qu'effectivement, il y avait la partie pharmaceutique, médicale, on va dire, qui était importante, mais pas que, et cette partie un petit peu naturelle qui m'intéressait de plus en plus et dans laquelle je me suis spécialisé, pour enfin vraiment continuer ma spécialisation avec le microbiote intestinal. J'ai ces casquettes et je trouve qu'en officine, on devrait effectivement vraiment essayer de développer ces thématiques naturelles, puisque d'abord, il y a un besoin et une demande de nos patients. Et deuxièmement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont complémentaires par rapport à la médecine allopathique. Elles ne sont pas antagonistes pour moi, c'est vraiment une complémentarité. Et il ne faut donc pas hésiter à utiliser donc ces connaissances qui sont aussi pharmaceutiques, faut pas l'oublier, et qui nous permettent aussi donc d'exercer notre métier dans de bonnes conditions et de pouvoir soulager le patient et aussi d'agir sur un volet qui me paraît très important, qui est celui de la prévention de la maladie, parce qu'on n'est pas là uniquement pour intervenir quand les gens sont malades ou avec une ordonnance, mais aussi pour prévenir, notamment à travers des conseils d'hygiène, diététique, et des conseils aussi alimentaires, et avec la phyto, l'aroma et les médecines naturelles, pour pouvoir faire en sorte que les gens ne tombent pas malades, et puis s'ils sont malades, bien sûr, pouvoir les aider. Voilà.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et puis comme on en discutait par ailleurs, c'est vrai que si c'est pas nous qui le faisons, d'autres le feront à notre place.
Et... Oui, il y a d'autres circuits effectivement qui sont à l'affût, on va dire, et qui se forment pour pouvoir effectivement répondre à cette demande. Et on voit souvent arriver dans nos officines des personnes avec des petits bouts de papier gribouillés, des produits que nous avons déjà, et donc qui ont été conseillés par d'autres personnes. Donc c'est très bien, c'est pas le souci, c'est simplement que nous avons les capacités en tant que pharmacien, en tant que préparateur, en tant qu'équipe officinale, donc d'avoir les notions largement pour pouvoir effectivement aider ces patients avec donc ces éléments naturels. Et donc, ce que vous citiez tout à l'heure, ce sont les naturopathes, appelons un chat un chat. Et encore une fois, c'est bien qu'ils soient là, il n'y a aucun souci, c'est très bien. Mais je pense que nous pouvons aussi amener et avoir notre touche par rapport donc à nos patients.
Complètement. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de PharmaBiote ?
Alors, PharmaBiote, effectivement, c'est une école de formation pour les professionnels de santé que j'ai créée, que je suis en train petit à petit de développer quand j'ai le temps, puisque comme vous le savez, je travaille déjà à temps plein en officine en tant que pharmacien adjoint aujourd'hui. Et donc, du coup, effectivement, j'essaye de faire en sorte que nos collègues pharmaciens ou professionnels de santé aient un espace pour pouvoir découvrir. Ça existe déjà, hein, j'invente pas la poudre, mais je tenais aussi que ce soit un petit peu le côté pharmaceutique, notre touche à nous, pour pouvoir apprendre à utiliser un peu mieux la phyto, l'aroma, la phytothérapie, l'aromathérapie, donc la micronutrition, la gémothérapie, etc. Et j'ai développé et j'ai contacté plutôt d'autres confrères qui sont spécialisés aussi et qui vont participer petit à petit à cette aventure que je suis en train de développer.
Comme vous dites, vous n'êtes pas le premier, mais on sent quand même la petite touche personnelle de ce que vous êtes en train d'essayer de monter. Donc, je compte suivre ça de très près et je pense que les auditeurs ont tout intérêt à faire de même.
Merci beaucoup. En tout cas, j'essaierai de faire en sorte qu'effectivement, comme je dis, le pharmacien a une place prépondérante à jouer à ce niveau-là. On sait aujourd'hui que notre place a évolué, le paradigme a changé suite à la Covid, ça c'est clair et net. Nous sommes amenés aujourd'hui à faire beaucoup plus de choses que l'on faisait aujourd'hui, puis s'en rendu compte un peu plus de notre nécessité dans cette société, parce que les pharmaciens ont tenu le coup du premier jour, n'ont jamais flanché. Pour certains, ils sont aujourd'hui épuisés parce qu'ils ont vraiment tout donné. Donc on va forcément à un moment ou un jour ou l'autre passer ce cap et il restera effectivement les tests, il restera les vaccins, il restera beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, mais je pense qu'on peut aussi développer les entretiens et le côté, la naturalité de l'officine. Alors bien entendu, toutes les officines ne s'orienteront pas vers ce genre de pratique ou ce genre de façon de faire, mais il y a beaucoup d'officines aujourd'hui, beaucoup d'officinaux et de professionnels de santé qui sont intéressés pour vraiment développer ça, soit au sein de l'officine, carrément, soit même à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des opportunités que Internet nous amène, qu'il faut saisir, puisqu'encore une fois, d'autres personnes les saisissent, et nous pouvons le faire, moyennant effectivement faire un petit effort pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc vous en êtes le parfait exemple, effectivement, donc de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la technologie, puisque nous sommes à distance l'un de l'autre et nous pouvons échanger et présenter donc une émission à vos auditeurs, que je salue au passage.
Merci beaucoup. On va rentrer justement dans le vif du sujet et parler du syndrome de l'intestin irritable, qui est donc l'objet de l'épisode. Pour commencer et remettre un petit peu un cadre, je vais vous poser une question très simple, c'est déjà, qu'est-ce que le microbiote ?
Alors, le microbiote, en fait, c'est l'ensemble des bactéries, des micro-organismes plutôt, puisqu'on parle surtout de bactéries, mais c'est l'ensemble des micro-organismes non pathogènes qui vont se retrouver soit sur nous, soit à l'intérieur de nous. On appelle ça donc le microbiote ou les microbiotes, puisqu'en fait, il n'en existe pas qu'un. Il y a donc, on peut parler du microbiote cutané, c'est-à-dire c'est un ensemble de bactéries, de virus, d'archées, c'est-à-dire d'organismes unicellulaires sans noyau, et puis n'oublions pas les champignons aussi, qui sont là. Et en fait, on se rend compte que sur la peau, par exemple, il y a un écosystème qui va être différent du microbiote, on va dire, des autres microbiotes, par exemple le microbiote pulmonaire, où on a d'autres types de bactéries, ou alors du microbiote vaginal, où on a encore d'autres types de bactéries, on les connaît déjà plus ou moins à travers donc nos études. Et donc il y a le microbiote aussi buccal, parce qu'il y a des bactéries différentes à ce niveau-là. Et puis enfin, bien sûr, le dernier, le plus grand, celui où il y a de plus d'études actuelles, qui est le microbiote intestinal. Alors effectivement, on a parlé donc de bactéries, on a parlé de virus, on a parlé de champignons. On va parler donc. Il faut savoir que par exemple aujourd'hui, quand on parle de virus, il serait 10 fois supérieur aux bactéries. Et quand on parle de bactéries, au niveau du microbiote intestinal, on parle de 100 000 milliards de bactéries. Quand on prend un exemple, par exemple, quand on prend un grain donc de sel, excusez-moi, je vais être un petit peu trivial, un gramme de sel, c'est à peine un peu plus gros qu'un grain de riz, nous avons 100 milliards de bactéries. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a une profusion de bactéries qui sont avec nous et qui, pour le coup, sont des bactéries amies. Ça, c'est important de le signaler. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, non pathogènes. Ce sont des bactéries amies, ça veut dire que elles vont vivre avec nous, elles vont obtenir le gîte et le couvert contre un petit travail qui va être effectivement de nous aider à assimiler certains aliments, à synthétiser certaines vitamines, comme la vitamine K, comme la vitamine B8, à synthétiser certaines hormones très importantes, comme la sérotonine, comme le GABA. Il y a plus de 80% de la sérotonine qui se fabrique donc au niveau de notre microbiote intestinal, contre beaucoup d'autres services qu'elles nous rendent. C'est ce qu'on appelle en termes scientifiques une symbiose, c'est-à-dire une association à bénéfice réciproque. Elles y trouvent leur compte et nous aussi. Alors on ne pouvait pas avant les déterminer ou du moins savoir exactement en quoi elles consistaient, tout simplement parce que là où il y en a le plus, c'est dans le côlon. Et en fait, comme vous le savez, c'est une partie de l'organisme qui est en anaérobiose totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc dès qu'on les sortait à l'air libre, on va dire, eh ben, on ne pouvait plus les cultiver. Aujourd'hui, grâce à la métagénomique et donc à ces techniques un petit peu beaucoup plus poussées et avec donc l'aide aussi des ordinateurs super puissants, on a pu effectivement commencer petit à petit à isoler les espèces et à savoir un petit peu leur rôle. Mais on en est qu'au tout début. Et on va encore beaucoup, beaucoup découvrir de choses, je pense, dans les années à venir. Voilà, donc le microbiote, c'est ce qui va nous permettre donc de digérer, c'est ce qui va nous permettre donc de synthétiser des vitamines, c'est ce qui va nous permettre de synthétiser des hormones, c'est ce que ça permet aussi, quand il est équilibré, d'éviter un certain nombre de maladies sur lesquelles il intervient. La liste est très longue, ça va du diabète, ça va donc à l'Alzheimer, ça va à l'autisme, ça va donc même jusqu'à certains cancers que l'on peut prévenir en ayant un bon microbiote. Alors pour finir, c'est quoi un bon microbiote? C'est simplement avoir un nombre suffisant de bactéries et des bonnes bactéries. Voilà. Donc bien sûr, l'alimentation va être très importante et on sait aujourd'hui que l'alimentation qu'on appelle ultra transformée est délétère pour ce microbiote, c'est-à-dire que tout ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans l'industrie donc alimentaire et qui n'apporte pas de nutriments à notre organisme, eh bien si on peut éviter, c'est tant mieux. Pareil pour les boissons, tout ce qui est boissons effectivement sucrées dont certaines sont très connues, dont je ne citerai pas le nom, eh bien on sait aujourd'hui que elles n'apportent strictement rien à notre organisme. Voilà. Donc si on peut les éviter, encore une fois, C'est toujours mieux pour notre santé.
Mmh. Elles apportent rien, c'est même pire.
Exactement, tout à fait. Mmh. Je le disais gentiment.
Ah, mais c'est passionnant. Passionnant. C'est là qu'on se rend compte du pouvoir que ça peut avoir, en fait, sur notre santé. C'est limite le nerf de la guerre, en fait.
Oui, effectivement, quand vous parlez de nerf, c'est une très bonne image parce qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, au niveau donc de l'intestin, il y a une connexion permanente entre l'intestin et le cerveau. C'est ce qu'on appelle la fameuse connexion l'axe intestin-cerveau, qui se produit donc de quatre manières. D'abord, par l'intermédiaire du nerf vague. Il faut savoir que lorsqu'on a une interaction qui va du cerveau vers l'intestin, on en a 10 qui vont de l'intestin vers le cerveau. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'appellent donc le second cerveau, voire le premier cerveau, quand on parle de l'intestin. D'autre part, l'intestin est extrêmement innervé. Il y a 200 millions de neurones qui sont tout au long donc, de la paroi intestinale. Et donc, les communications se font à travers, qui partent du microbiote vers le cerveau, se font soit par la voie sanguine, à travers donc, les hormones dont je parlais tout à l'heure, soit à travers donc les nerfs, soit à travers le système donc lymphatique, et donc soit à travers le nerf vague. Donc effectivement, il y a une, vraiment une interconnexion très importante entre l'intestin et le cerveau. Et donc aujourd'hui, on en est au tout début, encore une fois, donc des découvertes entre ces deux axes. Et surtout, ce qu'on a fini par découvrir, ou du moins par admettre, c'est que finalement, le microbiote intestinal est un organe à part entière. Il faut savoir qu'il fait à peu près entre 1 kg et 1,5 kg, soit plus en poids que le cerveau. Voilà.
C'est comme si on avait une armée super puissante dans les tripes, quoi.
Alors, effectivement, c'est une très bonne image, encore une fois, parce que quand vous parlez d'armée, quand on parle donc du nombre de bactéries, il y a aussi un autre phénomène qui rentre en ligne de compte et qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons à peu près 23 000 gènes. Et les bactéries du microbiote intestinal, elles ont environ 600 000 gènes. Ce qui veut dire que quand on prend le génome d'un être humain aujourd'hui, on est 10% humain et 90% bactérien. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est humain, est-ce qu'on est bactérien? La question reste posée, mais en tout cas, on a un génome donc bactérien donc qui s'exprime, qui est de 600 000 versus 23 000 gènes humains, 600 000 gènes bactériens. Donc effectivement, c'est assez énorme et c'est bien d'une armée dont on parle, vous avez tout à fait raison.
Et en fait, quand je vous écoute aussi, je me rends compte du potentiel que ça pourrait avoir, parce que peut-être que potentiellement, on pourrait agir aussi sur des pathologies psychiatriques, en fait, quand on sait que ça produit 80% de la sérotonine, par exemple.
Oui, tout à fait. Encore une fois, l'importance, ce qu'on sait aujourd'hui, quand on parle donc de maladies psychiatriques, c'est que dans toutes les maladies psychiatriques aujourd'hui, il est clair que toutes les analyses donc, de microbiote qui ont eu lieu à ce niveau-là, ont permis de déterminer qu'il y avait un microbiote particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, mais encore une fois, on en est qu'au tout début, donc on ne peut pas encore beaucoup se prononcer sur le rééquilibrage de ce microbiote qui pose problème. En fait, c'est pas facile à rééquilibrer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on prend donc des enfants autistes ou quand on prend des personnes qui ont certaines pathologies, effectivement, on est sûr effectivement que le microbiote ou leur microbiote est différent. Mais on ne sait pas encore bien comment on peut bien rééquilibrer tout ça et si ce rééquilibrage est dû à la maladie ou est-ce que c'est la maladie qui a déséquilibré le microbiote ou est-ce que c'est le microbiote qui a déséquilibré la maladie. On ne sait pas encore très bien comment ça agit. Ce qui est sûr, c'est que le microbiote de ces personnes, il est perturbé et il est différent d'un microbiote, on va dire, lambda, voilà, sur lequel on pourrait s'appuyer. Donc, ça veut dire aussi qu'il n'est pas inintéressant de s'intéresser aussi à l'alimentation et au rééquilibrage de la nourriture donc de ces personnes.
Parce que peut-être qu'au final, on s'est trompé de cible, on a essayé de jouer sur le cerveau, mais peut-être qu'il faudrait justement, voilà, comme on le dit, agir sur les deux.
Moi, je pense qu'il faut effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, donc la partie allopathique et la partie naturelle, on va dire, si on peut toujours comparer ça comme ça, eh bien, pour moi, c'est complémentaire. Il faut vraiment agir sur les deux. Il ne faut pas juste agir sur l'un en pensant que ça va suffire. Les deux me paraissent aujourd'hui absolument importants. Et surtout, encore une fois, c'est corrélé avec les résultats qu'on obtient quand on fait des tests et quand on analyse les microbiotes donc de ces personnes-là. Mais, encore une fois, on n'en est vraiment qu'au tout début. Et on n'a pas fini d'en apprendre là-dessus. Voilà. Il existe aujourd'hui donc de plus en plus d'ailleurs donc de laboratoires qui sortent donc des souches particulières pour traiter certains symptômes ou certains problèmes particuliers, plus que, on va dire, des mélanges de souches qui vont agir de façon un petit peu au hasard, on va dire. Donc c'est vraiment en cours. Il y a pas mal de bactéries qui sont à l'étude. Certaines sont déjà sorties, d'autres pas encore. Plutôt, quand je dis bactéries, c'est plutôt des souches. Donc vraiment, on est sur la souche, c'est-à-dire on a le nom de la bactérie et un numéro qui fait qu'on travaille vraiment sur une souche particulière par rapport à un problème donné.
Ok, voilà. C'est vraiment passionnant.
Merci.
On va focus du coup sur un problème du microbiote. Est-ce que vous pouvez nous définir le syndrome de l'intestin irritable?
Alors là, c'est compliqué. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est très très difficile à pouvoir définir, parce que c'est plusieurs syndromes en fait. Ça va agir aussi bien donc au niveau intestinal, effectivement, avec donc c'est un syndrome. Donc c'est un syndrome, on connaît pas très bien les origines, mais enfin on sait qu'il y a une origine nerveuse, mais tous les symptômes que je vais vous décrire, voilà, je cherchais, un petit peu mes mots, tous les symptômes que je vais vous décrire vont être différents selon les personnes et plus ou moins intenses selon les personnes. Voilà. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, qu'il y a plusieurs syndromes de l'intestin irritable différents. Alors, on va avoir effectivement, donc ce sont des personnes qui vont être souvent, pour 20% de ces personnes-là à peu près, suite à une prise d'antibiotiques ou à un choc émotionnel, donc vous voyez, des choses complètement différentes, vont se retrouver avec des ballonnements, des difficultés de digestion, soit des constipations assez régulières, soit de la diarrhée assez régulière, soit un mélange des deux. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on classe un peu les syndromes de l'intestin irritable en D, diarrhéique, C, constipation, M, milieu entre les deux, ou carrément, le quatrième, c'est carrément, il n'y a ni l'un ni l'autre. Voilà. Et donc, il y a aussi les ballonnements, qui sont toujours présents, qui ne sont pas considérés comme faisant partie du diagnostic, mais qui sont toujours présents à 90%. Donc, et puis, il y a aussi la douleur. Et ça, c'est très important. Ce sont des personnes qui ont des douleurs. Il faut savoir que les personnes qui sont atteintes de syndrome de l'intestin irritable, ce sont des personnes qui, organiquement, n'ont pas de problème. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller investiguer par colo ou autre, eh ben, on ne trouvera pas de problème, comme par exemple dans une maladie de Crohn ou dans une rectocolite hémorragique, où là, la muqueuse est touchée. Pour les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable, eh ben, elles n'ont pas de problème organique. C'est ce qui fait la difficulté, d'abord, du diagnostic. En moyenne, une personne qui a ce genre de problème, elle va passer 2 ans d'errance médicale avant de trouver enfin un nom sur ce qu'elle a. Voilà. Et va subir plusieurs examens parce que c'est pareil, le système médical fait que le médecin, des fois, il doute, il se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, cette personne n'a rien, etc. Et malheureusement, pour certains aussi, l'accompagnement médical ne se passe pas forcément dans de bonnes conditions, au vu aujourd'hui que les médecins, malheureusement, n'ont pas le temps. Et du coup, comme ils ne voient pas de troubles organiques, ils disent, écoutez, monsieur ou écoutez, madame. Alors, ils disent surtout, écoutez, madame, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui sont touchés. On a à peu près 3 femmes pour un homme. Et ils vont lui dire, écoutez, madame ou écoutez, monsieur, c'est dans la tête, vous n'avez rien de particulier, voilà, il n'y a rien. Alors que c'est faux. On sait aujourd'hui que ces personnes souffrent, on sait qu'elles ont mal, on sait qu'elles ont une difficulté à vivre, une difficulté donc à relationnelle, une difficulté donc à avoir une vie normale, on va dire, parce que vraiment, ce sont des symptômes qui sont récurrents et qui les empêchent vraiment de vivre une vie normale. Voilà. Donc ballonnement, douleur, diarrhée, voilà, c'est quand même des joyeusetés qui sont pas super intéressantes et qui souvent, encore une fois, arrivent de façon brutale, ou alors on a des personnes qui vont vous dire, eh bien écoutez, moi ça fait depuis, je me rappelle même plus tellement longtemps que j'ai ce problème-là, et qui décident à un certain âge, commencent à se dire, voilà, maintenant j'aimerais bien quand même que ça cesse. Et il se trouve que, et puis au décours d'une lecture, ou au décours d'une discussion, etc., ils se rendent compte qu'effectivement, c'est pas tout à fait normal ce qu'ils ressentent, et qu'il faut qu'ils aillent consulter pour pouvoir effectivement améliorer. Et c'est là où le parcours du combattant peut commencer, sauf à tomber sur un médecin, encore une fois, qui est attentif et qui est formé. C'est pas qu'ils sont pas attentifs ou formés, c'est juste que, ils n'ont pas beaucoup de temps et que eux vont et c'est normal, un médecin va s'intéresser au côté organique. Organiquement, est-ce que c'est bon ou pas bon? Si c'est bon, pour moi, la personne, elle n'a rien, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on sait que ça n'est pas le cas.
Et coupez-moi si je me trompe, mais en fait c'est logique qu'ils trouvent rien de façon organique, parce qu'au final c'est juste c'est un déséquilibre du nombre de bactéries. Donc au final, si on fait une culture, on va voir toutes les bonnes bactéries, enfin on va voir qu'il y a toutes les bactéries qu'il faut. C'est juste on pourra peut-être pas estimer le déséquilibre.
Alors le microbiote intestinal au niveau du syndrome de l'intestin irritable a son rôle à jouer, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a pas que ça. On aimerait bien que ça serait simple. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus complexe. Il est clair, par contre, que le fait de pouvoir rééquilibrer le microbiote pour ces personnes-là peut, dans beaucoup de cas, améliorer des choses. Mais ça n'est pas obligé, malheureusement. Ça n'est pas obligatoire que ça résolve le problème. Parce que dans ce cas-là, on saurait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, comme je vous ai expliqué, il y a 4 types pour simplifier, hein, donc de syndrome de l'intestin irritable. Et en plus, dans tous ces quatre types, il y a différents niveaux. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont vraiment très handicapées et d'autres personnes qui le sont moins. Donc, en fonction de ça, effectivement, les traitements les solutions qu'on va leur proposer vont être plus ou moins efficaces. Pour certaines personnes, ça va être efficace. Malheureusement, pour d'autres, ça ne le sera pas. Et aujourd'hui, en fait, on a énormément de solutions possibles en fonction. Par exemple, si c'est une prédominante diarrhéique, eh ben, on va commencer par l'opéramide. C'est logique. Ça peut déjà beaucoup les aider. Mais effectivement, à côté de ça, rien n'empêche de rééquilibrer le microbiote. Il faut savoir aussi que lorsqu'on rééquilibre le microbiote par des compléments alimentaires que nous pouvons proposer, c'est des traitements qui doivent être assez réguliers. Ben parce que on se rend compte, effectivement, la science nous dit que ben, au bout de 24 à 48 heures, ben, il y a une diminution des bactéries que l'on peut amener. Il y a aussi donc d'autres éléments comme la glutamine qui peut aider l'entérocyte, c'est-à-dire les cellules donc de l'intestin, et pour autant qui peut améliorer. Mais encore une fois, ça dépend de chaque cas. C'est très très, c'est pas aussi simple. Voilà.
D'accord, ok. Et justement, comment on le diagnostique ? Comment on pose le diagnostic ? Et est-ce que c'est un diagnostic qui peut être objectivé par analyse biologique ?
Alors, effectivement, c'est pas que ça peut être objectif. Alors, je vais parler simplement déjà de l'analyse biologique et puis je vais revenir sur le diagnostic. Alors, sur l'analyse biologique, en fait, c'est pas que c'est objectivé par ça, mais c'est qu'il faut surtout éviter de passer à côté d'autres choses. Voilà, donc effectivement, l'analyse biologique est importante. Ça permet de voir s'il y a une inflammation, donc par l'analyse de la CRP. Ça permet donc de voir pas mal de choses et puis ça permet de faire des analyses un peu plus poussées pour éviter simplement de passer à côté d'un cancer, par exemple. Voilà. Une fois qu'on a fait cette analyse-là, le diagnostic, en fait, il est basé sur des recommandations qu'on appelle les recommandations de Rome et qui ont été en fait revues 4 fois. Donc, c'est-à-dire que la dernière recommandation de Rome fait que elles sont beaucoup plus restrictives. Il faut que ce soit des personnes qui aient eu depuis au moins 6 mois ce genre de symptômes et qu'ils aient pendant ces 6 mois, pendant les 3 derniers mois, au moins toutes les semaines, ce genre de symptômes, voilà, ce genre de problématiques donc avec leur intestin. Et donc pour le coup, il faut qu'il y ait la douleur aussi. Et pour le coup, on a enlevé le côté, il n'y a pas le côté ballonnement, il y a beaucoup de critères qui ont été retirés ou du moins resserrés, je ne sais pas comment on peut dire, ce qui fait que ça va ramener en fait la prévalence donc du syndrome de l'intestin irritable de 10% à peu près, de 10 à 15% de la population, soit 6 à 9 millions quand même de personnes qui vont être concernées, à 5% à peu près aujourd'hui, quand on va tenir compte de ces critères-là. Voilà. Donc c'est bien le diagnostic qui a lieu sur ces critères-là. Il se trouve, j'ai lu il n'y a pas longtemps, qu'en fait ces critères-là sont même un petit peu méconnus, même des médecins, ou même de certains médecins, pour pouvoir les diagnostiquer. C'est ce qui fait peut-être la difficulté de ces personnes à se faire diagnostiquer et qui fait qu'il y a une errance médicale avec beaucoup de tests, on cherche beaucoup, beaucoup de choses et on ne cherche pas forcément les bonnes choses. Voilà.
D'accord. Ok. Et ça, vous avez déjà commencé à y répondre, mais je vais quand même poser la question. C'est quels sont les... Enfin, est-ce qu'on connaît les causes et les facteurs de risque du syndrome de l'intestin irritable ? Des syndromes même, je dirais, du coup.
Alors oui, effectivement. Alors les causes, effectivement, donc j'en ai cité quelques-unes. Ça peut être effectivement une diarrhée qui a été ou un syndrome diarrhéique, on va dire qui s'est mal terminé. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça peut être un choc émotionnel. Il peut y avoir donc ça peut être à l'enfance des choses qui se sont passées qui peuvent se répercuter après. Et puis, donc ça veut dire que simplement, on a des personnes qui vont avoir ça depuis longtemps, et puis on a des personnes qui vont avoir ça suite à ce problème-là. Voilà. C'est difficile de savoir comment ça se... Enfin, il y a même beaucoup de personnes qui, quand on leur pose... Je crois qu'il y a plus de 50% des personnes, quand on leur pose la question de comment ça a commencé, qui ne savent pas répondre. Ils ne savent pas. Ça a commencé un jour, ils ne savent pas trop. Quand est-ce que ça... Et à l'inverse, vous avez des personnes exactement, ils savent exactement quel jour, quelle heure, comment ça s'est produit et comment ça s'est passé. Et alors, j'ai oublié l'autre question, pardon.
Les facteurs de risque.
Alors, facteur de risque, effectivement. Alors, moi, je dirais que les facteurs de risque, comment dire, ils sont d'ordre peut-être génétique, on va dire, mais est-ce que c'est un facteur de risque? Je ne sais pas. C'est simplement qu'il y a certaines personnes qui sont prédisposées. Voilà. Il y a aussi le caractère, je n'ai pas assez insisté dessus, le caractère un petit peu nerveux, c'est-à-dire anxieux, c'est-à-dire voilà, stress. Les personnes qui sont stressées, anxieuses, etc., vont avoir plus tendance, ce n'est pas un caractère obligatoire, mais ils ont plus tendance à être plus sensibles ou sensibilisés à ce syndrome et vont avoir tendance à plus donc le développer au décours effectivement donc d'un syndrome donc diarrhéique ou autre. Un autre facteur de risque extrêmement important aujourd'hui, et on y fait, je pense, pas assez attention, c'est l'alimentation. Voilà, ce qu'on ingère est extrêmement important au niveau de notre microbiote, bien sûr, microbiote intestinal, et puis aussi au niveau du développement du syndrome d'intestin irritable. Pourquoi? Mais parce qu'on se rend compte que c'est quand même des maladies qu'on va retrouver plus, ou du moins qui ont une prévalence plus importante dans les pays industrialisés. Voilà. Donc on sait aujourd'hui que malheureusement, le mode alimentaire ou l'alimentation ou ce qu'on ingère a une activité très importante sur notre état de santé, voilà, ou sur la prévention d'un bon état de santé, voilà. On
Et je
sait
dirais,
aujourd'hui que oui.
oui. Non, j'allais dire, et je dirais même encore plus à dans l'enfance, en fait, parce que c'est là que tout se construit.
Tout à fait. Dans l'enfance aussi, c'est là que tout se construit. Il se trouve aujourd'hui qu'on est parti sur. Il y a aussi donc ce qu'on appelle la théorie hygiéniste, c'est-à-dire qu'on est parti à tout vouloir tout nettoyer, vouloir que tout soit clean, etc. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que les enfants, par exemple, qui naissaient ou qui avaient donc un environnement où ils avaient des animaux, ou alors des enfants qui naissaient ou qui avaient un environnement plutôt donc plutôt au niveau donc où il y avait des animaux de ferme ou des choses comme ça, étaient plus protégés, avaient un microbiote plus développé, plus complet, et avaient moins tendance à faire des maladies comme l'allergie, comme l'asthme, qui sont liées
Qui
aussi
sont liés, ouais.
à un problème aussi entre autres de microbiote, mais pas que, une sensibilité personnelle. Mais on sait aujourd'hui qu'à vouloir tout nettoyer trop, c'est pas bien. C'est pas bien non plus. Il faut laisser un petit peu de saleté, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, pour pouvoir faire en sorte qu'effectivement l'enfant développe ses propres bactéries, puis son propre microbiote intestinal. Il faut savoir aussi que le microbiote intestinal, c'est quelque chose qui est extrêmement spécifique à l'individu. C'est une sorte d'empreinte digitale. Voilà. Il y a à peu près entre 500 et 700 espèces bactériennes différentes, mais on va pas retrouver plus de 200 par individu. Voilà. Et il y en a une vingtaine qui sont vraiment d'importance par individu.
D'accord. Le microbiote, il se fait à quel âge?
Alors le microbiote, c'est une bonne question. Le microbiote, il va se faire exactement à la naissance, ce qu'on appelle donc les fameux 1000 premiers jours, c'est-à-dire donc de la naissance à l'âge de 2 ou 3 ans de l'enfant. Et en fait, c'est lorsque la maman va accoucher qu'elle va transmettre son microbiote à travers donc ses bactéries vaginales et fécales, d'accord? Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui que les personnes ou les mamans parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement ou parce qu'elles ont un souci médical ou autre, qui naissent par césarienne, ont un microbiote, enfin l'enfant a un microbiote qui est moins diversifié et moins important que l'enfant né par voie naturelle. Et cela implique simplement qu'il a plus de risques, on va dire, donc de faire des allergies ou de faire de l'asthme ou faire des choses comme ça. Ceci peut être contrebalancé par l'allaitement maternel qui peut effectivement faire en sorte, surtout s'il dure au moins 6 mois, on va dire, si c'est possible, qui peut effectivement contrebalancer ce problème donc de microbiote insuffisant, on va dire. Et il faut savoir qu'à l'âge de 3 ans, les deux enfants, on va dire, celui qui est né par voie naturelle et l'autre qui est né par voie donc de césarienne, eh bien, on va avoir un microbiote qui va se rééquilibrer et être à peu près identique. Voilà. Pas exactement, mais à peu près identique. C'est ce qu'on appelle le phénomène de résilience. Et ce qui se passe dans les premiers jours donc de la naissance, c'est que la maman va transmettre les bactéries donc au nourrisson. Et ces bactéries vont aller tout de suite dans le tube digestif pour pouvoir le coloniser et puis développer le microbiote, enfin le microbiote de l'enfant. Et il y a donc c'est pour ça que l'allaitement maternel est important, des substances qu'on appelle des HMO. On s'est rendu compte que ces substances-là qu'on va retrouver dans le lait maternel, eh bien, sont là pour développer justement les bactéries. Ce sont des prébiotiques, c'est-à-dire des substances qui vont nourrir les probiotiques, que sont donc les bactéries. Et ce ne sont pas des bactéries, en fait, et la maman va donner ça à son enfant pour qu'il puisse se développer. Voilà, donc c'est important. Il existe aujourd'hui donc d'ailleurs des produits à base de HMO, mais l'allaitement maternel reste quand même le plus intéressant.
Et par rapport à ce que vous disiez par rapport à la césarienne, j'ai vu que pour prévenir ça, il y a une technique assez controversée qui consiste justement à inoculer par la bouche le microbiote vaginal, donc la femme.
Alors effectivement, aujourd'hui, il y a ça commence à être de plus en plus utilisé. C'est-à-dire donc de prendre un écouvillon stérile, de le placer dans le vagin de la maman, donc, et puis effectivement de badigeonner l'intérieur de la joue du nourrisson. Ça, certaines cliniques, certains hôpitaux le font tout simplement pour pouvoir effectivement rétablir l'équilibre dû à la césarienne. Alors c'est peut-être controversé, mais moi je trouve que c'est une excellente façon donc de pouvoir pallier au fait que des fois la maman elle n'a pas le choix, la césarienne est une obligation pour son état de santé, etc. Et donc pour le coup, ça permet quand même de transmettre donc un bon microbiote à son enfant. J'irai plus loin. La maman et le papa doivent être très attentifs à leur microbiote avant la naissance donc du nourrisson pour pouvoir transmettre un microbiote dans les meilleures conditions au nourrisson. Donc la maman, surtout la maman d'ailleurs, doit faire bien attention à ce qu'elle mange, à manger sainement, à manger des aliments donc ou des fruits et légumes de saison. Voilà, donc prendre le temps de bien manger tout simplement pour pouvoir avoir un bon microbiote à transmettre à son enfant. C'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît.
Bah oui, là voilà. je découvre un monde passionnant. Merci. C'est incroyable.
C'est vrai, c'est vrai.
On se dit qu'il y a des choses comme ça, minuscules, qui en fait impactent tellement de choses, c'est incroyable.
Tout à fait. C'est des choses simples finalement, quand on réfléchit bien. C'est pas très difficile de bien manger, c'est pas très difficile, voilà.
Et c'est devenu difficile à notre époque en fait. C'est devenu, au final, même boire de l'eau, j'ai l'impression que c'est plus logique pour certaines personnes, quoi.
C'est vrai, alors que s'hydrater tous les jours, donc c'est extrêmement important effectivement pour que notre organisme puisse effectivement fonctionner. C'est un peu comme l'essence et l'huile, hein, donc... Malheureusement, l'essence devient une denrée de plus en plus chère aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, une voiture sans essence ne pourra pas rouler, hein, ça c'est clair. Et c'est pareil, si le niveau d'huile n'est pas bon, et ben c'est le niveau de vitamines, justement, c'est le niveau donc, de... Et ça, on ne l'a pas en mangeant des chips, hein, je suis désolé.
Clairement.
Ça c'est clair, voilà, ou des fast-food dont je ne citerai pas le nom, où en fait on se rend compte que au-delà du goût qui nous attire, les nutriments, il n'y en a pas. Les vitamines, il n'y en a pas. Les oligo-éléments, il n'y en a pas. Voilà. Donc,
et on détruit en plus le microbiote.
Et en plus, on détruit le microbiote. Donc, alors je dis, pour se faire plaisir, on peut garder ça une fois par mois, pas plus.
Oui, c'est strict, attention.
C'est ça. Parce que plus, voilà, c'est pas bon. Voilà, une fois par mois pour se faire plaisir, d'accord, mais pas plus. Voilà, vraiment pas plus, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que ça n'apporte rien, voilà. Ça n'apporte rien et on ne se nourrit pas, voilà, dans le sens naturel du terme. Voilà.
Et quand on est atteint du syndrome de l'intestin irritable, que faire ? Quelles mesures hygiéno-diététiques adopter ?
Alors déjà, quand on est atteint de syndrome de l'intestin irritable, il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Donc déjà, ce que je pense, moi, c'est que nous devrions, donc nous, professionnels de santé, donc développer des entretiens où effectivement on reçoit ces personnes, parce que ce sont des personnes qui ont déjà besoin d'être écoutées. Voilà. Ça fait des années qu'elles ont ce problème, ça fait des années que pas beaucoup de gens ne les écoutent, et en fait, en les écoutant, on peut déjà trouver des débuts de solutions, en posant les bonnes questions, en regardant tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont essayé, etc. Ça permet effectivement donc de regarder et de les aider. Après, donc, les règles hygiéno-diététiques, la première règle, on vient d'en parler à l'instant, c'est de regarder avec elles leur alimentation. Voilà. Alors, comment on peut faire? C'est tout simple, en fait. On peut demander à la personne, très gentiment, avant, par exemple, si on a un entretien ou si elle vient nous voir, faut savoir qu'au comptoir, c'est un petit peu difficile. Il faut vraiment essayer de prendre un peu de temps. Voilà. Au moins de lui demander, par exemple, de photographier pendant une semaine tout ce qu'elle mange. Et du coup, elle nous l'amène. On a toujours des surprises quand c'est comme ça, parce que personne, quand on l'écoute, et c'est normal, on vous dit, mais moi, je mange bien, je comprends pas, voilà. Il n'y a pas de problème particulier. Vous me demandez ça, bon, vous êtes bien gentil, mais voilà, moi, je pense pas que j'ai de problème particulier à ce niveau-là. Bon, vous comprenez pas, mon problème, c'est, voilà, c'est l'intestin, c'est pas du tout là, ce que je mange, ce que je mange bien. Et lorsqu'on voit effectivement leur nourriture, surtout quand, au moment où elles mangent cette nourriture, on se rend compte qu'effectivement, il y a souvent des choses à rectifier. Voilà. Et ces choses-là font qu'effectivement, on peut déjà les aider à ce niveau-là. Voilà, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est effectivement un régime d'éviction de FODMAPs. Les FODMAPs, ce sont donc des sucres fermentés cibles, en fait, qui peuvent amener pas mal de gaz, pas mal d'inconfort. Et en fait, là, pour le coup, là, il faut le faire plutôt avec un professionnel. Il faut quand même bien savoir un petit peu de quoi on parle. Et en fait, ce sont des régimes où on va essayer d'éliminer ces food maps sur, on va dire, une période de 4 semaines, par exemple. Donc, c'est une moyenne. Et après, c'est quand même assez strict. Et après, petit à petit, on réintroduit les aliments ou ces aliments-là pour voir un petit peu si ça peut effectivement... Si c'est ces aliments-là qui posent problème. Voilà. Auquel cas, il faudra dire à la personne de plus y retoucher. Voilà. Et il y a des personnes qui font aussi des régimes sans lactose, parce que ça peut être ça le problème, ou sans gluten, mais il ne faut pas que les personnes se lancent dans le sans, parce que ce n'est pas forcément bon, parce que justement, quand on fait des régimes, par exemple, sans gluten, on s'est rendu compte qu'au niveau du microbiote intestinal, eh bien, ça le détruisait aussi. Donc, ce n'est pas forcément bon. Il faut être sûr que si on fait sans gluten, que c'est vraiment efficient, qu'il y a vraiment besoin, c'est-à-dire que derrière, soit il y a une maladie cœliaque, soit il y a vraiment une sensibilité à ce gluten. Voilà. Donc, c'est des choses qui vont se tester petit à petit. Donc, en fait, ce n'est pas du one shot. On va rencontrer la personne, on va discuter, on va voir, on va essayer. Et puis, petit à petit, on va améliorer, puis etc. Et petit à petit, on va... Voilà. Il y a aussi donc des plantes qui peuvent aider. Il y a aussi donc des huiles qui peuvent aider, donc des huiles essentielles. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certaines, effectivement, qui peuvent aider. Et je pense que toutes ces choses-là, il faut les tester petit à petit. Et dès qu'on a des améliorations... parce qu'effectivement, c'est une maladie quand même qui est assez récurrente et qui est assez chronique, et c'est assez difficile de s'en dépatouiller. Voilà. On peut améliorer les choses, on peut faire attention à la nourriture, on fait attention à bien sûr, il y a aussi des traitements, qui sont assez divers d'ailleurs, hein, qui peuvent aller donc d'un antihistaminique à un antidépresseur, à olopéramide. Oui, tout à fait. Pour certaines personnes, on donne carrément des antidépresseurs. Parce que tellement les personnes ne sont pas soulagées, quoi. Donc il y a vraiment toute une palette, voilà. Donc, faut accompagner, il faut expliquer, et je pense que c'est des personnes qui ont besoin d'être écoutées. Puis c'est pareil, elles ont besoin qu'on leur explique aussi leur maladie, parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, on peut les rassurer. Une personne qui a le syndrome de l'intestin irritable, il n'y a aucun facteur de dangerosité ou par rapport au syndrome de l'intestin irritable.
Voilà. Parce que ça, on a beaucoup entendu, voilà. Oui, plus de risque de cancer. Donc, mais en final, moi, j'ai découvert que ce n'était pas vrai, ça. Oui, entièrement faux.
Entièrement faux. Donc, rien à voir, absolument rien à voir.
Voilà. Et ça, c'est encore une grosse idée qui est véhiculée. Hein. Ça, c'est...
Oui, moi, je l'entends. C'est entièrement faux. C'est pas du tout prouvé par la science, c'est pas du tout prouvé par ce que l'on voit et ce que l'on rencontre tous les jours, c'est faux. Donc il faut aussi rassurer ces personnes par rapport à ça, et puis leur expliquer simplement ce qu'elles ont, en quoi ça consiste, et leur dire que, eh bien effectivement, c'est pas dans leur tête, que c'est bien un syndrome, c'est bien, il y a bien un problème donc au niveau donc de leur intestin, que ce n'est pas organique, c'est-à-dire que l'intestin fonctionne normalement, il n'y a pas de problème, mais malheureusement, il est un peu plus ci ou un peu plus là qui fait qu'ils ont mal, qui fait que c'est des douleurs quand même importantes, hein, donc c'est pour ça qu'on peut aller jusqu'aux antidépresseurs pour pouvoir voilà. En fait, aujourd'hui on est, il y a pas beaucoup de reconnaissance donc du syndrome de l'intestin irritable, bien que ça fait quand même, quand on parle de 6 à 9 millions de personnes, ça commence à faire des personnes quand même touchées. Et ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de recherche, ou du moins d'investissement dans la recherche. Autant il y a beaucoup d'investissement dans des maladies comme les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ce qui est tout à fait normal, la rectocolite ou la maladie de Crohn, ce qui est tout à fait logique. Autant là-dessus, il y a vraiment très très peu de recherche, ce qui fait qu'on n'avance pas. On tâtonne, voilà.
Et pour revenir sur quelque chose dont on a parlé, donc ça c'est un peu pour faire de la prévention, moi j'ai regardé aussi votre l'épisode sur justement le syndrome de l'intestin irritable avec le gastro-entérologue dont j'ai oublié le nom, sur votre phare matinale.
Oui, Julien Scanzi.
Voilà, et il parlait justement, des antibiotiques. Et le fait que justement ça peut être quelque chose qui détruit vraiment le microbiote, et que plus le spectre est large, plus le spectre de l'antibiotique est large, plus on va avoir une destruction. Et donc on pense directement, comme il l'a cité, à l'augmentin qui est prescrit en masse. Moi je le vois surtout en ce moment, il y a énormément d'augmentin, par exemple, même pour souvent en prévention, parfois il n'y a pas encore l'affection et c'est déjà prescrit, et je me dis mais en fait on se rend pas compte, c'est catastrophique. Il y a la résistance déjà aux antibiotiques, mais il n'y a pas que ça, il y a la destruction du microbiote, quoi.
Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on sait que malgré toutes les campagnes, donc les antibiotiques, ce n'est pas automatique, etc. Malheureusement, on a encore une propension à donner des antibiotiques de façon un petit peu trop importante. Et aujourd'hui, on sait par exemple qu'on peut, par exemple, pour une angine, on peut déjà réaliser ce qu'on appelle les TROD. J'ai fait la formation la semaine dernière, donc je suis au top là-dessus. Et je trouve que c'est très important de pouvoir les faire à l'officine, parce que comme ça, bon, on évite des prises d'antibiotiques inutiles. C'est-à-dire que le médecin peut être amené à prescrire une ordonnance où il dit, ben voilà, faites le test. Moi, j'ai pas le temps, ou je veux pas le faire pour X raisons. Et ben faites le test vous en pharmacie, ou lui peut le faire aussi. Faites le test en pharmacie, et s'il y a besoin, eh bien, vous donnez des antibiotiques. Que s'il y a besoin. Ça veut dire que s'il y a une angine bactérienne. Ce qui fait que quand on sait qu'une angine, par exemple, elle est à 90% virale, eh bien, il y a 90% de chances que quand on donne des antibiotiques, ça ne sert à rien. Voilà. Par contre, quand on donne ces antibiotiques, eh bien, malheureusement, on détruit le microbiote. Effectivement, on détruit les mauvaises bactéries, c'est ce qu'on recherche, mais on détruit aussi les bonnes. Et ça, malheureusement, on n'y échappe pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a les bonnes bactéries qui empêchent les mauvaises de se développer, parce que c'est ça. Les mauvaises, elles sont toujours là. Elles ne sont pas parties en vacances en attendant. Et donc, elles peuvent en profiter pour se développer. Et d'ailleurs, une bactérie qu'on appelle donc Clostridium difficile, donc ou aujourd'hui Clostridioides difficile, parce qu'elle a changé de nom, eh bien, elle va se développer au décours d'une antibiothérapie. Et alors là, pareil, quand on attrape ça, eh bien, la personne, malheureusement, elle ne vit plus. C'est-à-dire qu'elle reste scotchée aux toilettes toute la journée, et puis voilà. La seule façon d'ailleurs, comment dirais-je, une fois, c'est pour essayer de l'éradiquer, on redonne des antibiotiques, donc on détruit encore plus, enfin c'est la catastrophe. Et malheureusement, des fois, on n'y arrive pas. Et on a trouvé une solution, c'est d'ailleurs la seule indication en France aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle donc la greffe de microbiote. Voilà, la greffe, donc on va prendre le microbiote d'une personne qu'on va greffer à une autre personne. Et lorsqu'effectivement, de toute façon aujourd'hui, c'est, comme dirait l'autre, ne faites pas ça chez vous, parce que j'ai entendu qu'il y avait des échanges de microbes, de trucs comme ça. Enfin, il faut vraiment faire attention, parce que malheureusement, quand on transmet le microbiote, on transmet aussi les pathologies. Et les pathologies dont on n'a pas connaissance aussi. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est extrêmement encadré et fait donc par des praticiens à l'hôpital. Mais pour le coup, les personnes qui sont touchées par le Clostridium, eh bien, c'est miraculeux. Elles reprennent la vie en l'espace de quelques jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la greffe du microbiote est extrêmement étudiée, et y compris pour le syndrome de l'intestin irritable, pour pouvoir effectivement... Mais aujourd'hui, on en est encore au stade de la recherche. On n'en est pas encore au stade donc de la... Comment dirais-je, de l'utilisation. Alors, il y a l'anecdote, encore une fois, ne faites pas ça chez vous, il y a l'anecdote donc, d'un journaliste scientifique américain qui avait des gros soucis, justement. Je crois bien que c'était un syndrome de l'intestin irritable qu'il avait. Et donc, il a demandé transplantation fécale, qu'on lui a refusé. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il habitait un grand immeuble à New York, et il a commencé à se renseigner, il a trouvé un de ses voisins qui avait l'air en bonne santé, et petit à petit, ils ont commencé à faire des échanges, comme ça, de microbiote, je vous fais pas de dessin, et en fait, ça l'a soigné, ça l'a guéri. Mais encore une fois, c'est juste, il a pris son risque, etc. Il faut pas le faire, sans avis médical et sans suivi médical aujourd'hui. Voilà. Et encore une fois, le syndrome d'Alzheimer irritable, pour l'instant, ça n'est qu'au stade de la recherche. Mmh. Voilà, ça n'est pas du tout encore validé. Voilà.
Surtout quand on sait toutes les implications du microbiote, on se dit, moi, j'ai pas envie de prendre le microbiote de n'importe qui, du coup, attention. On sait pas ce que ça pourrait nous transmettre, hein. Attention.
Exactement, bah, si par exemple la personne est diabétique, bah, ça vous transmet le diabète. Si la personne est obèse, ça peut vous transmettre effectivement donc, cette façon donc, de devenir obèse, enfin, etc. Il y a beaucoup de choses qu'il faut donc éliminer avant de pouvoir effectivement le faire. Donc non, aujourd'hui, c'est clair. Ça ne peut être fait qu'en milieu hospitalier par des personnes qui sont aguerries, qui ont l'habitude de le faire et qui font effectivement qui font toutes les analyses diverses et variées nécessaires avant de le faire. Et puis qui posent aussi le diagnostic, donc les bons diagnostics et les bonnes utilisations de cette méthode. Mais aujourd'hui, elle promet beaucoup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là.
Voilà. Ok.
On verra dans quelques années.
Et quel est le rôle des probiotiques dans tout ça ? Est-ce que...
Alors, le rôle des probiotiques dans tout ça, effectivement, c'est, comme on disait tout à l'heure, dans tous les cas, le microbiote est déséquilibré. Voilà. Quand une personne, effectivement, a ce syndrome, il a un microbiote qui est déséquilibré. L'idée, c'est de dire, si on rééquilibre ce microbiote, eh bien, ça permettra effectivement d'aider effectivement à faire en sorte que la personne soit mieux. La guérir peut-être pas, mais au moins qu'elle soit mieux. Voilà. Mmh. Et notamment, on parlait tout à l'heure du régime d'éviction des FODMAP. Et lorsqu'on fait ce régime d'éviction, on sait que je vous ai dit que le microbiote avait été touché ou du moins était détérioré. Et une façon d'éviter de détériorer, c'est de donner justement des probiotiques. Il y a un certain mélange de probiotiques. Il y a un produit en fait auquel je pense qu'on peut donner et qui effectivement permet donc de remettre un petit peu les bactéries en l'état pendant la durée de l'éviction des FODMAP. Voilà. D'accord. Ça c'est d'une part, et d'autre part effectivement, encore une fois, rééquilibrer le microbiote de quelqu'un avec des probiotiques, il faut tester. Il y a aujourd'hui moins d'une dizaine de produits qu'on peut utiliser dans le syndrome de l'intestin irritable. Il faut les utiliser. Voilà, il faut les essayer. Ce qui est certain, c'est que pour les personnes qui sont soulagées, elles le sont vraiment. Alors, tout le monde ne l'est pas, hein. Mais pour les personnes qui sont soulagées, elles le sont vraiment. Donc, ça vaut vraiment le coup parce qu'elles se sentent vraiment mieux. Et pour le coup, elles viennent chercher régulièrement leurs produits parce qu'elles savent que voilà, ce n'est plus, pour elles, ce n'est plus du confort. C'est vraiment un besoin. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne soulage pas tout le monde. Voilà.
Ouais, justement, par rapport à ça, je voudrais dire deux choses. Alors déjà, j'ai eu une prise de conscience parce que vous avez dit que le microbiote, c'était 100 milliards de bactéries.
Donc, je me 100 000
suis...
milliards.
100 000 milliards, voilà, donc encore pire. Donc en fait, je me suis rendu compte pourquoi certains probiotiques que j'ai pris n'ont pas fonctionné, parce qu'en fait, tout simplement, il n'y avait pas assez de souches, en fait. Quand on nous présente
un probiotique... Ou pas assez de concentration. Voilà. Et il faut savoir, donc soyons plus complets, il faut savoir que quand on veut rééquilibrer aussi son microbiote, il n'y a pas que les probiotiques. Il y a les probiotiques, mais on peut aussi aussi prendre donc des produits naturels comme le kéfir, etc. Donc
ils vont kombucha,
comme les aliments, le kombucha, comme les aliments fermentés. Moi, je dis aux personnes, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Moi, je dirais presque que les probiotiques aujourd'hui, c'est plus par rapport à des problèmes spécifiques. Et le reste, les produits naturels, comme donc, encore une fois la lactofermentation qu'on n'utilise pas assez, qui est très simple à faire. Donc c'est de l'eau et du sel. Eh bien, ça permet quand même d'avoir de bonnes bactéries et pour le coup réensemencer notre microbiote de façon naturelle. Voilà. Donc manger des produits naturels, puis manger des produits lactofermentés, de la choucroute, des choses comme ça, c'est très très bon pour la santé. Ça permet aussi de rééquilibrer. Il n'y a pas que les probiotiques. Voilà. Il faut être complet là-dessus.
Ouais, et pour parler aussi un peu de mon expérience personnelle, il fallait absolument que je le cite, mais Alflorex, incroyable, vraiment.
C'est à lui que je pensais tout à l'heure.
Je sais, il est vraiment incroyable ce produit. Enfin, moi je sais que c'est, je me suis pas sentie bien comme ça depuis. Enfin, je sais même plus depuis quand. Mais par contre, c'est vrai que là j'ai arrêté pour voir un petit peu et je sens déjà que ça revient les symptômes quoi. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un équilibre qui est très 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 fragile parce que.
C'est ça.
un petit coup de stress et hop, je sens que ça, ça revient.
Le stress est un phénomène. Alors, tout à l'heure, on parlait de règles hygiénodiététiques. J'ai oublié de citer effectivement le stress. Hein. Le stress et l'anxiété, il faut toujours. Encore une fois, c'est lorsqu'on va discuter avec la personne, quand je dis discuter, c'est surtout l'écouter, qu'on va se rendre compte effectivement quels sont les éléments qui sont déclencheurs ou qui peuvent favoriser. Et il faut agir sur ces éléments-là. Voilà.
Mais du coup, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est réversible. Enfin, je pense qu'on peut l'améliorer, mais j'ai l'impression que dès qu'il va y avoir un coup de stress, on repart un peu, pas de zéro, mais...
En fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on sait effectivement, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de recherche. Donc, on ne connaît pas bien. C'est ça. En fait, on pêche par ignorance. Donc, pour le coup, effectivement, je suis un peu d'accord avec vous. Je suis vraiment triste de vous dire ça, mais c'est vrai. On peut pas. Encore une fois, je suis très triste parce que j'aimerais bien qu'on puisse avoir des solutions, mais on peut effectivement que améliorer.
Améliorer, ouais.
Voilà. Mais pour le coup, au moins qu'on puisse le faire comme il faut. Voilà. Parce qu'il y a, encore une fois des solutions pour au moins rééquilibrer les personnes, les aider. Et c'est notre rôle. C'est un petit peu le rôle de prévention dont je parlais tout à l'heure. Là, on n'est plus dans le curatif parce qu'on peut pas. Ou du moins, on n'a pas suffisamment donc de flèches à notre arc, mais on peut au moins prévenir et aider les personnes à se sentir mieux.
C'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup, oui, parce que moi, j'ai pu remanger, par exemple, des pâtes carbo. Enfin, c'est quelque chose de vraiment, je suis pas bien après, quoi. Je le paye le plat, quoi. Et là, j'ai pu en remanger. Je me suis dit, mais incroyable. Enfin, donc c'est déjà beaucoup d'être soulagée quand ça fait des années qu'on est plus ou moins handicapé, quoi. Et encore, je sais que moi, je ne suis pas la pire. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus, quoi.
C'est ce que je vous disais, il y a plusieurs niveaux. Tout à fait. Exact, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai.
Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce partage. C'était vraiment passionnant. Je pense que je pourrais rester plantée là encore une heure sans problème.
Et bien, écoutez, il n'y a pas de souci. Merci à vous, Chloé. Merci de votre invitation. Je suis très heureux d'avoir partagé ça avec vous aujourd'hui.
Moi aussi. Je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez un conseil ou une inspiration positive à nous partager avant de nous quitter ?
Alors oui, ça va être un petit peu orienté, je suis désolé. Tout simplement, prends soin de ton microbiote, il prendra soin de toi.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast, Le Journal du Pharmacien, et à me dire ce que tu en as pensé. À bientôt sur Le Journal du Pharmacien.